Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le déplacement de la première ministre française en Algérie samedi et dimanche prochain. L'Algérie est un pays frère, nous sommes liés par une histoire commune, nous dit Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de Pluriel, nous l'écouterons. Une découverte macabre en Libye, 42 corps non identifiés ont été trouvés dans un charnier à Sirte. Un rassemblement ce dimanche à Paris en soutien aux femmes iraniennes, l'Iran où la répression des manifestations a fait au moins 92 morts. La confusion au Burkina Faso après un putsch militaire, le chef de la junte refuse de quitter le pouvoir. Gros plan sur les lundis du livre dans le 5e arrondissement de Paris. Ils ont lieu chaque premier lundi du mois. Pour nous en parler, le poète, écrivain et éditeur Éric Poindron, l'un des directeurs des lundis du livre. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain Jamil Rahmani pour son livre « Les contes berbères de mon grand-père » chez Orient Éditions, extrait dans votre journal. L'Algérie, officiellement candidate pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une annonce après le retrait de la Guinée. Ce sera samedi et dimanche prochain le déplacement en Algérie de la première ministre Elisabeth Borne. L'invitée de Pluriel ce week-end, Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a évoqué cette visite. Elle revient sur les relations entre Paris et Alger et la question de l'immigration.
Nous sommes liés par notre histoire commune. L'Algérie et la France, c'est une histoire que personne ne peut renier ou nier. Donc oui, la place de l'Algérie est centrale. Que ce soit sur les échanges commerciaux, mais que ce soit sur les échanges de valeurs. Donc c'est un pays frère, l'Algérie. Et c'est comme l'Arménie, vous voyez, ce sont des pays frères. Ce sont des pays sur lesquels, voilà, nous avons une histoire avec l'Arménie, nous avons une histoire avec l'Algérie. Et le voyage en Algérie du président de la République a été primordial sur le plan de la diplomatie, sur les échanges commerciaux, sur les échanges concernant les visas. Probablement que j'anticipe un peu votre prochaine question, mais tout ça a été mis sur la table par le président de la République et nous sommes revenus avec, notre visite officielle s'est limite changée en visite d'État. Ça a été 3 jours et demi très intense et nous sommes revenus avec des débuts de discussion et puis nous, le travail parlementaire suivra. En tout cas, je peux assurer que nous suivrons pour les parlementaires qui étaient dans cette délégation, des députés Renaissance, mais aussi des députés NUPES, avec qui nous travaillons sur ces échanges, avec des sénateurs comme Rachid Temal, PS, Christian Cambon, qui est LR. Donc voilà, nous avons encore beaucoup de choses à travailler ensemble et à réussir avec l'Algérie.
Et les relations entre la France et l'Algérie sont aujourd'hui apaisées. Faudra octroyer davantage de visas, notamment à des étudiants, par exemple.
Notamment, mais pas que, notamment aussi à des personnes qui ont de leur famille qui est ici, des membres de leur famille. Par exemple, je pense à ces retraités que j'ai rencontrés là-bas, qui sont retraités, des anciens chefs d'entreprise, des médecins, qui ont leurs enfants établis en France et qui sont soumis exactement aux mêmes restrictions de visa, on va dire aux mêmes contraintes de visa que n'importe lequel de leurs concitoyens. Donc nous avons à travailler sur ces visas, mais alors, en échange, l'Algérie doit accepter aussi de reprendre tous les Algériens qui sont issus de l'immigration illégale. Donc je dis, il faut être absolument ouvert sur cette immigration qui veut venir en France, mais qui vient probablement pour s'installer, mais aussi juste partir et revenir, comme on disait, faire des allers-retours, mais absolument ferme sur le retour des étrangers illégaux sur notre territoire. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre si ça n'est pas mis au centre du jeu. Et ça a été mis par le président de la République. Donc le président Tebboune a parfaitement pris en compte les échanges que nous avons sur cette coopération, parce que la lutte contre l'immigration illégale, ça concerne l'Algérienne, hein, je parle, ça concerne l'Algérie directement.
Sabrina Agresti-Roubache, une loi sur l'asile et l'immigration sera présentée en 2023. Pourquoi une nouvelle loi est-elle nécessaire? Est-ce que c'est une loi qui va durcir les conditions d'entrée sur le territoire français?
Alors elle est nécessaire parce que nous sommes au milieu du guet. Ce que nous faisons n'est pas à la hauteur du pays. Je m'explique. Nous n'accueillons pas convenablement et décemment ceux qui viennent chez nous. et nous n'avons pas encore osé dire que nous devons choisir notre immigration. La France est un pays qui vieillit, nous faisons de moins en moins d'enfants, nous avons de plus en plus d'emplois non pourvus. Il suffit de rencontrer les patrons de fédérations pour vous dire à quel point ils ont du mal à recruter dans la restauration, dans le bâtiment, dans tous ces métiers. Et à un moment donné, on doit accepter de faire, mais regardez ce qui se passe de partout au Canada. Il faut poser les mots.
Sabrina Agresti-Roubache, députée de Marseille, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Elle était l'invitée de Pluriel, une émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. Une découverte macabre en Libye, 42 corps non identifiés ont été trouvés dans un charnier à Sirte, un ex-bastion de Daesh, à environ 450 km à l'est de Tripoli. Une annonce de l'autorité libyenne en charge des disparus. Plus d'une centaine d'étudiantes afghanes ont fait part de leur colère après un attentat suicide dans une école privée à Kaboul. Elles ont manifesté ce matin dans la ville d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Un rassemblement pour dénoncer cette attaque terroriste qui a tué vendredi au moins 35 personnes, dont 20 jeunes filles. Une attaque qui a également fait 82 blessés. La mobilisation internationale en soutien aux femmes iraniennes. Plusieurs associations ont appelé à un rassemblement cet après-midi à Paris pour manifester pour les droits et les libertés des femmes en Iran. Rassemblement en place de la République. L'Iran où la répression des manifestations a fait au moins 92 morts. Un mouvement provoqué par la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, est morte à l'issue de sa garde à vue. Un lourd bilan en Indonésie après un mouvement de foule dans un stade de football. 125 personnes sont mortes. Un drame dans l'est de Java. Au coup de sifflet final, plus de 3000 supporters ont envahi la pelouse, créant un énorme mouvement de foule. Une situation tendue et confuse au Burkina Faso après l'annonce par des militaire du deuxième coup d'État en 9 mois dans le pays. L'ancien chef de la junte appelle les putschistes à revenir à la raison. Des grenades de gaz lacrymogène ont été tirées ce matin de l'intérieur de l'ambassade de France à Ouagadougou pour disperser des manifestants qui soutiennent le putschiste autoproclamé Ibrahim Traoré. Gros plan sur les lundis du livre dans le 5e arrondissement de Paris. Ils ont lieu chaque premier lundi du mois. La prochaine édition aura lieu demain à 19h à la mairie du 5e, événement porté par la maire Florence Berthoux et les directeurs des Lundis du Livre, Mathias Vincenot et Éric Poindron, le poète, écrivain et éditeur Éric Poindron.
Les Lundis du Livre du 5e arrondissement, c'est un événement qui existe depuis 3 ans que nous avons créé avec Mathias Vincenot. Mathias qui est à la fois professeur à la Sorbonne, il est un spécialiste de la chanson française entre autres, il est poète, il est directeur de collection, enfin c'est un homme multicasquette et qui ne compte pas son temps pour partager l'amour du livre, des textes français. Et quand il m'a proposé cette aventure, il est allé en parler à la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoux, qui fait beaucoup, beaucoup de choses pour la culture dans le 5e arrondissement, et pas seulement, hein, évidemment, c'est vraiment une mère d'exception. Et tout de suite, évidemment, Florence Berthoux était enthousiaste, et cet événement a un double intérêt, c'est qu'il rappelle, durant toute l'année, puisque les lundis du livre ont lieu, comme son nom l'indique, premier lundi de chaque mois, donc c'est une rencontre qui dure 2 heures, cet événement est un peu, non pas le contrepoint, mais un peu le pendant ou appelle le festival du quartier du livre, qui est un joli festival initié par Florence Berthoux dans tout le 5e arrondissement. Alors aussi bien les écoles, les musées, les universités, les privés, les particuliers, les associations, les péniches, enfin tout le 5e arrondissement se met à leur livre au mois de juin durant une semaine. Il y a plus de 300 événements, c'est assez considérable. Et évidemment, ces fameux lundis du livre sont là un peu pour rappeler que la culture ou la défense du livre, ça n'est pas seulement durant un lundi soir ou une semaine, mais c'est vraiment toute l'année. J'en veux pour preuve, je ne sais pas si ça existe encore dans la mairie du 5e arrondissement, mais il y avait autrefois... Florence Berthoux avait fait reconstituer une boîte de bouquinistes et puis on pouvait signer une pétition pour faire classer les quais des bouquinistes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc il y a vraiment des actions dans le 5e arrondissement et il était difficile de refuser ça à Florence Berthoux qui était effectivement elle seule une Hercule qui multiplie les travaux si bien pour l'intelligence que pour sa communauté, que pour ses administrés.
Le quartier du livre que vous évoquez qui est notamment connu pour son cabinet
cabinet de curiosité.
Oui, c'est vrai, on s'amuse beaucoup. Enfin, je m'amuse beaucoup. Pareil à la demande de Florence. Tous les ans, j'imagine un cabinet de curiosité différent, un peu interactif, où je reconstitue à la fois, évidemment, qu'est-ce que c'était que les toutes premières collections avant la création contemporaine de la muséographie ou des musées. L'année dernière, je m'étais amusé aussi dans ce cabinet de curiosité, alors à projeter des cieux un peu partout. Le thème, je crois, c'était l'essentiel, si ma mémoire est bonne. Mais j'avais aussi reconstitué le bureau d'un écrivain imaginaire qui aurait été un piéton de Paris du 5e arrondissement. Donc, il y avait des traces. On pouvait le suivre un peu dans cette expo. Voilà, j'essaie de faire des expositions, d'abord jamais la même, mais surtout des expositions avec de la musique, avec des jeux sonores, avec des véritables pianistes qui viennent jouer. Puis c'est aussi un cabinet de curiosité qui est ouvert durant 7 jours pour toutes les manifestations. Il y a des soirées autour de la littérature, il y a des soirées autour de l'Europe, il y a des soirées autour de la poésie. Voilà, l'idée, c'est toujours de faire des expositions qui rendent un peu plus vivants les objets.
Et vous le transmettez à travers vos propos. C'est un moment festif, à l'image également du lundi du livre, et c'est important.
Oui, alors les lundis du livre, c'est un très beau moment. Alors, évidemment, quand on a commencé avec Mathias, c'est quelque chose qu'on fait en tout bénévolat, je le précise, parce que je sais que la mairie met sur les différentes communications sur son site directeur, on a des titres de directeur Mathias et moi, mais on est surtout des amateurs, c'est-à-dire qu'on fait au sens classique, étymologique et noble du mot amateur, c'est-à-dire on le fait avec cœur, on le fait avec conscience, mais évidemment on ne demande pas de rétribution pour ce genre d'activité. L'idée, c'est un partage, c'est 2 heures. Alors c'est pas une messe, surtout pas, ou si c'était une messe, ce serait une messe basse, comme les messes basses d'Alphonse Daudet, sauf qu'elles étaient un peu courtes. C'est un vrai instant de communion, c'est-à-dire qu'on invite à chaque fois Mathias et moi 2 auteurs, il choisit 2 auteurs, je choisis 2 auteurs, nous ne nous concertons pas. Il n'y a pas un thème, on va pas dire aujourd'hui ça va être l'éveil, demain ça va être où en est-on avec la littérature. Non, c'est vraiment 4 auteurs dont on va écouter les voix. Alors d'abord, ils font un premier tour de table où ils lisent sans expliquer leur texte. Donc on est là vraiment pour entendre la musique de leur texte ou le ton de leur texte. Et puis ensuite, ils reprennent la parole pour expliquer un peu pourquoi telle œuvre. Alors on peut recevoir aussi bien des scientifiques, des poètes, des écrivains, des biographes, des comédiens qui racontent leur mémoire, des enfants de chanteurs célèbres qui viennent témoigner de leur père. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous les champs de l'écriture. Et nous apercevons souvent avec Mathias Vincenot que sans nous concerter, les 4 invités ont des choses en commun à se dire. Il y a des thèmes qui sortent un peu de ces conversations malgré nous, et ce qui donne aussi un peu la grâce de ces soirées. C'est vraiment 2 heures, ça commence à 19h, ça se termine à 21h, l'entrée est libre, évidemment, c'est dans la magnifique salle des mariages de la mairie du 5e, donc en plus on a le privilège pour les uns et les autres de voir en ce moment le ciel se coucher sur le Panthéon où il y a toujours des lumières miraculeuses. C'est vraiment à la fois un grand spectacle dehors, qui est le cosmos évidemment du 5e arrondissement, et puis cet instant en confidence des lecteurs, des poètes, des écrivains qui viennent un peu faire partager leurs univers. Et on en sort à chaque fois, Mathias et moi les premiers, tout ébloui de ces 2 heures où le temps décélère un peu, c'est-à-dire il n'y a plus de montre. Il n'y a plus d'auto, il n'y a plus tout ça, il y a simplement la voix. Et c'est pour ça que je faisais un peu cette métaphore en parlant d'une messe. Voilà, c'est une messe, mais évidemment complètement agnostique ou païenne.
Et vous communierez ce lundi avec Sophie Carquin, Jean Dalby, Lily Nissen et Pénélope Rose, qui oui. Pourront bien entendu rencontrer leurs lecteurs. Là aussi, c'est important, ce lien physique entre l'écrivain et le lecteur.
Oui, parce que ça, il existe dans les salons du livre, comme vous le savez, cher ami. Mais en revanche, là, on prend vraiment le temps. C'est-à-dire qu'une fois que la conversation est terminée, les uns et les autres peuvent se lever, aller converser avec les écrivains, parfois même aller boire un verre avec eux après. Enfin, c'est tout à fait... C'est à l'envie de chacun, mais c'est quelque chose qui se fait, c'est-à-dire les écrivains viennent boire un verre ou grignoter après. Et donc la soirée se poursuit un peu comme ça, dans une espèce de joyeuse ambiance bohème qui s'y est bien au 5e arrondissement. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est important, puisqu'on parle de livres, on parle aussi de la chaîne du livre et de l'économie du livre. Les livres sont vendus à la sortie, évidemment, de ces rencontres par la librairie Pédone. Marc Pédone, qui est un libraire honoraire formidable qui est installé rue Soufflot, officie et s'occupe évidemment chaque mois de choisir les livres des auteurs présentés, mais aussi d'autres livres de leur biographie. Et puis les uns les autres peuvent repartir avec des livres, soit d'auteurs qu'ils aiment, soit d'auteurs qu'ils viennent tout simplement de découvrir et dont ils ont aimé la voix, le son, la présence, la musique, la confidence.
Le poète, écrivain et éditeur Éric Poindron, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, et l'écrivain Jamil Ramani pour son livre « Les contes berbères de mon grand-père » chez Orient Éditions. Il s'agit d'un texte inédit que son grand-père avait écrit dans les années 50, un texte que Jamil Ramani a retravaillé pour cette édition.
Mon grand-père était un homme de grande culture et c'était l'expression parfaite de ce que devrait être l'Algérie, c'est-à-dire diverse. Il parlait toutes les langues du pays, à savoir l'arabe dialectal, qu'on appelle improprement dialectal, qui est une langue qui n'est pas un dialecte, mais une langue à part entière. Il parlait le berbère, enfin le kabyle de sa région. Il parlait le français, il parlait l'arabe, et il l'écrivait aussi, il l'enseignait, il parlait l'arabe dit littéraire. Et tout au long de sa vie, il a tenu à être le témoin et le récipiendaire de sa région, des us et coutumes de sa région. Il a fait des écrits sur les rites funéraires, par exemple, dans la région du Cap-Aoukas, sur certains rites alimentaires, sur la pratique de la circoncision. Et il a recueilli ses contes dans les années 50. Il les a recueillis. Il devait être publié en 61-62, mais bon, l'indépendance de l'Algérie est arrivée, il y a eu des bouleversements que vous imaginez, et donc ça ne s'est pas fait.
Et donc il y a une très belle préface du professeur au Collège de France Jacques Berck, qui est un monument pour qui s'intéresse au Maghreb, au monde arabe. Cette préface, il l'avait écrite pour le livre ?
Absolument, oui. Il a, pour une raison très simple, c'est que il connaissait depuis sa plus tendre enfance mon grand-père. Il est né en Algérie, hein, Jacques Berck, il est né à Frenda, son père était responsable de la commune mixte d'Aoukas, où habitait mon grand-père. Et donc, mon grand-père a connu Jacques Berck et lui a enseigné le berbère, le kabyle et l'arabe. Et donc, l'intérêt pour l'arabe de Jacques Berck provient, j'imagine, des enseignements de mon grand-père.
L'écrivain Jamil Ramani, invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. L'Algérie officiellement candidate pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025, une annonce après la décision de la Confédération africaine de football de retirer l'organisation de la compétition à la Guinée. La CAF a réuni hier à Alger son comité exécutif qui a commencé à recevoir les nouvelles candidatures pour la CAN 2025. Un responsable de la fédération marocaine a lui fait savoir que son pays envisager d'être candidat. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.